おかしいおかしい。
Bonsoir, trois thèmes pour cette tribunale, à savoir, dans son dernier rapport publié mardi dernier, l'Azado dénonçait l'exécution sommaire des 49 personnes par les FARDC les jours et au lendemain des affrontements du 4 avril dernier dans la ville de Mbandaka. Ensuite, le Premier ministre Adolphe Moujiko était mercredi dernier devant les députés nationaux pour répondre à une série de questions avec débat. Et enfin, perturbation du trafic aérien dans certains pays européens suite à l'éruption du volcan en Islande. Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Marcelin Mandouakila, il est directeur de rédaction du quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Jean Cassetier Diemo, il est journaliste indépendant et éditeur de la revue La Voix des Justes. Et Fidèle Innocent Ngouyou Kamete, directeur provincial de l'Agence congolaise des presse, ACP en sigle, province orientale. L'Azado dénonce l'exécution des 49 personnes, le Premier ministre face aux députés, ainsi que perturbation du trafic aérien suite à l'éruption volcanique islandaise. Tels sont les thèmes retenus pour les débats de ce soir. Comment la presse chinoise a traité ces différents sujets? Écoutons cette revue de presse que nous présente Aimé Kamoua.
Bonsoir. Trois sujets dans la revue de presse que nous vous présentons. D'abord, le dernier rapport de l'Azado sur les événements du 4 avril dans la ville de Mbandaka. Ensuite, les passages du Premier ministre Adolphe Moujiko devant le député national. Et enfin, la perturbation du trafic aérien dans plusieurs pays européens suite à l'éruption d'un volcan islandais. Au sujet du rapport de l'ONG de droits de l'homme Azado, le potentiel rapport, le propos du porte-parole du gouvernement qui qualifie ce rapport d'une imposture. Toujours selon le ministre, la quasi-totalité des faits présentés par ce rapport sont soit erronés, soit inexact. L'avenir soutient que l'Azado est mise à nu par Lambert Mpende. Pour ce journal, le porte-parole du gouvernement a déploré les contre-vérités dans ce rapport. Il ajoute que ces ONG ternissent l'image de la RDC uniquement pour garantir leur pain quotidien. Au sujet du passage du Premier ministre à la Chambre basse du Parlement, la prospérité constate que sur une centaine d'intervenants, une dizaine seulement valait la peine. Pour notre confrère, les députés nationaux ont beaucoup parlé, mais très peu d'entre eux ont cependant épaté le public. Des interrogations pertinentes au Premier ministre pour des réponses non convaincantes soutient le potentiel. Terminons cette revue de presse avec la paralysie du trafic aérien en Europe. À ce sujet, la tempête des tropiques parle d'un rendez-vous manqué de la délégation du Conseil de sécurité en RDC. Dès que la situation atmosphérique redeviendra normale, la délégation onusienne arrivera à Kinshasa pour des entretiens avec les autorités congolaises sur les nouveaux mandats de la MONUC, précise ce journal. Évoquant le même sujet, le potentiel signale que SN Bruxelles a repris mardi soir ses vols sur Kinshasa. Selon ce journal, environ 360 passagers étaient inscrits sur le manifeste de ce vol.
Merci Bekamoa pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Marcelin Mandouakila, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction du quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Votre appréciation par rapport au travail abattu par la presse chinoise de cette semaine?
Oui, la presse chinoise, d'une manière générale, la presse congolaise, elle fait de son mieux pour être au cœur de l'actualité, pour informer son public, c'est-à-dire les lecteurs ou les téléspectateurs de la presse dans l'ensemble, et pour que réellement qu'il se crée un débat qui permette à l'ensemble de la population de savoir ce qui s'est passé un peu.
Jean Cassetier Diemo, vous êtes journaliste indépendant et éditeur de la régie La Voix des Justes. Et comment vous appréciez la manière dont la presse chinoise a traité les différents sujets de ce soir?
Bon, moi j'ai toujours dit que la presse, c'est cette famille des héros et héroïnes, n'est-ce pas, de la démocratie dans notre pays, parce que il faut considérer les conditions qui sont les nôtres pour la récolte, les traitements et la diffusion des informations, qui ne sont toujours pas faciles, mais ces jeunes gens, ces hommes, ces femmes responsables, se cassent en mille morceaux pour que la population ne manque pas son pain de l'information nationale et internationale. Donc ce sont des actions à louer.
Merci, fidèle Innocent Ngounou Kamete. Vous êtes directeur provincial de l'Agence congolaise des presses ATP en sigle, province orientale. Et quelle est l'actualité qui a dominé cette semaine dans la province orientale?
Oui, l'actualité qui a dominé, comme je l'avais dit, d'abord sur l'élection prochaine du vice-gouverneur, toujours, puisqu'en fait, les élections, si je m'accroche, c'est que le troisième vice-président de la CIE qui est ici a projeté la date du 28 avril, et dont la campagne commence pour le 24 demain samedi. Il y a aussi le cambriolage qu'on a constaté au centre de capture pour la production de passeports biométriques dans la nuit du dimanche à lundi. Alors c'est ça aussi, c'est que ça fait partie de la santé, parce que ça risque de remettre la province orientale dans le cadre du départ, c'est-à-dire avant d'attraper les passeports, il faut faire des déplacements d'équipe. Ça fait avec tous les frères connexes, vous voyez, à peu près c'est passé.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Dans son dernier rapport publié mardi dernier, l'ASADO dénonce l'exécution sommaire de 49 personnes par les FRDC le jour au lendemain des affrontements du 4 avril dernier dans la ville de Mbandaka. Selon l'ASADO, ces personnes ont été tuées le 4 et le 5 avril 2010. L'ASADO affirme aussi qu'au cours de ces événements, deux civils ont été tués par les insurgés se réclamant du mouvement de libération indépendante des alliés. Les détails avec Aimé Kamoa.
Pour réaliser ce rapport, l'ASADO s'est dit avoir rencontré les autorités politico-administratives, judiciaires et militaires, les ONG nationales et internationales de droits de l'homme, les Nations Unies, les confessions religieuses ainsi que les victimes et rescapés présents à Mbandaka lors des faits. Outre les exactions sommaires, l'ASADO affirme avoir enregistré aussi des cas de viol commis par des policiers armés. Le rapport ressort également plusieurs arrestations et détentions arbitraires opérées par les FRDC et les services de renseignement dans plusieurs quartiers des Bassoko, où selon l'ASADO, 6 personnes parmi les victimes ont été nommément identifiées. Une note positive tout de même, l'ASADO signale qu'après les affrontements, la cour militaire de Mbandaka a jugé et condamné certains militaires poursuivis pour mauvaise conduite. Ces procès se sont déroulés dans le respect des droits de la défense, rapporte le bâtonnier du bureau de Mbandaka cité par ce rapport.
Dans une conférence de presse qu'il a animée hier jeudi dans son cabinet de travail ici à Kinshasa, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, relève des incohérences contenues dans ses rapports, notamment la fausseté sur les lieux et l'identification des victimes, ce qui pousse le ministre Lambert Mende à se demander si les enquêteurs de l'ASADO ont bel et bien séjourné à Mbandaka. Marcelin Mandoakila, l'ASADO accuse et avance des chiffres, et de son côté, le gouvernement rejette ces informations. Votre réaction en tant que journaliste?
D'abord, je note que chaque fois que l'ASADO publie son rapport, il y a une réaction virulente du gouvernement par le ministre de la Communication et des Médias, M. Mende, comme toujours. En fait, ça crée toujours une polémique. Mais jusque-là, moi je me dis d'abord que l'ASADO a le mérite de lancer les débats. On ne nous dit pas encore clairement il y a eu combien de morts en Mbandaka, du côté des militaires, du côté des soi-disant INL, ou Nzobo et Alombo, comme on l'a dit, du côté de la population civile. Qu'est-ce qui s'est réellement vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je crois qu'avec le débat que l'ASADO a lancé, parce que même dans sa réaction, Mende nous dit, en dehors des camps militaires, il n'y a eu que 4 et 2 organisés en Mbandaka. Mais il ne nous dit pas il y a combien de morts en général. C'est pourquoi nous attendons aussi le rapport qu'on nous a promis du côté de la MONUC, pour savoir un peu, au regard des différents éléments, quelle peut être la situation réelle qui s'est déroulée en Mbandaka. Mais comme je l'ai dit au départ, l'ASADO a le mérite de lancer les débats. Il reste maintenant aux autres partis d'avancer leurs arguments également pour qu'on puisse savoir à peu près, après harmonisation, ce qui s'est réellement passé en Mbandaka.
Oui, Jacques Asekien, comme l'a dit Marcel Mandoakila, l'ASADO a le mérite de lancer les débats. Vous, comment vous analysez ces rapports de cette ONG de défense des droits de l'homme?
Bon, disons que moi, j'ai beaucoup de respect pour les ONG des droits de l'homme en Afrique en général et dans notre pays, vous savez. Depuis 90, ces ONG ont contribué au développement de la démocratie dans notre pays en lançant de temps en temps des débats comme ça sur soit de fausseté, soit des choses qui sont réelles en fait. Mais pour le cas présent de l'ASADO, Moi, j'ai dit, Lazado a parlé des exactions sommaires de plus de 45 personnes. Mais parmi tous ces 49, ils n'ont identifié qu'une seule personne, que le gouvernement a reconnu aussi être abattue par le groupe des insurgés. Moi, je pense que dans ce genre de travail, pour ne pas créer quelque chose comme une division dans l'unité communautaire que nous recherchons avec la paix, c'est pouvoir donner la liste. Parce que dans l'identification, vous retrouvez que dans les rapports de Lazado, on parle d'un armateur du côté des insurgés, ils ont tué deux personnes. Même parmi les deux, ils sont incapables de nous donner l'identité de l'autre. Ça, c'est un problème. Moi, peut-être que dans l'heure de documents, ils ont, mais lorsqu'on livre un rapport, il faut entrer dans les détails pour que ça ne crée pas polémique. De l'autre côté, le gouvernement qui est le propriétaire du terrain, le chef de terre, lui devait déjà prononcer, c'est prononcé en donnant son rapport. C'est là que j'ai toujours parlé de la crise communicationnelle au sein de notre gouvernement. Les ministres de la communication parlent souvent avec la presse, mais il faut qu'ils communiquent. On peut parler sans communiquer. À l'exemple de ce qui s'est passé en Mbandaka, ça ne suffit pas de faire un rapport global, mais il fallait entrer en détail parce que il ne faut pas que le gouvernement oublie qu'il y a la MONU qui est sur place, qui attend faire aussi son rapport. Il y a les ONG qui devaient réagir, il y a les églises qui devaient réagir. Mais avant que ces gens, avant que ce groupe social, je m'excuse, ne puisse pas donner les rapports, c'était au gouvernement de lancer le premier débat avec ces chiffres qui pouvaient être soit confirmés par les autres ou infirmés en donnant d'autres chiffres. Maintenant, c'est les indépendants, les Lazado qui lancent les débats et les gouvernements se mettent toujours en défensive. Ça, c'est comment je ne pense pas être normal. Il faut que le gouvernement se mette à l'offensive, soit le premier à prendre l'engagement et à présenter ses rapports sans que ça soit une accusation où le gouvernement veut tout de suite vouloir s'expliquer. Il ne faut pas que ça paraisse comme ça.
Oui, Fidèle Inossa Ngonou, vous pensez, comme le dit Jean Kaseke, que le gouvernement n'a pas su bien communiquer par rapport à cette question des Enyele?
Moi, j'ai une autre lecture hein, par rapport à mes deux précédents confrères. Ce que Lazado a dit, bon, c'est un rapport qui n'engage que cette organisation. Mais ce que moi j'ai constaté, dans les deux relatés des faits, j'ai constaté une certaine contradiction. Par exemple, si on doit voir le nombre de 49, là qu'on a parlé des élections sommaires, parce que là où qui a assisté vraiment à un réel débat, donc nous constatons que, comme a dit le confrère Jean, Lazado n'a pas identifié, donc parmi les 49, on n'a parlé que d'une seule de l'armateur qui a été abattu, mais là le gouvernement a freiné, se sépare les insurgés de la bande, comme on dit, Nzombo et Alombo. Donc, il veut dire tout simplement les bandits du village. Et puis, là aussi, le ministre de la Communication est allé très loin. Il dit, mais si on devait exécuter d'une manière sommaire, mais comment expliquer l'arrestation de 58 prisonniers armés, hein, des faits armés, des faits des insurgés? Là, ça prête également une certaine. Oh, les doutes ne profitent qu'à l'accusé. C'est-à-dire, Lazado a publié en ses rapports, il a voulu mettre, donc, clouer le gouvernement sur le mur, mais le gouvernement également a répliqué en donnant une certaine précision. Alors maintenant, il y a des doutes, comme on dit, les juristes disent, les doutes ne profitent qu'à l'accuser. Bon, alors, dès qu'on sonne des rapports, parce qu'on dit que le gouvernement traîne avec son rapport, or, lorsqu'il y a un rapport, moi, je trouve que c'est la voie aussi, le plus direct, c'est la voie de la presse, parce que la presse, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie également de l'information. Parce que la presse, c'est véhicule, même au moment où ils ont mangé des liens. Moi, je crois que si la fait contexte précis, je crois qu'il y a quelque part, nous devons encore approfondir la question, parce que c'est pas aujourd'hui que la vérité s'est fait à jour. Hein, je constate que le rapport d'Azazo, quelque part, ça a été fait d'une manière précipitée.
Et vous pensez que le gouvernement a suffisamment communiqué par rapport à cette question?
Mais a donné des éléments. Des éléments très importants. 58 prisonniers. Il n'a pas reconnu les 49. Il a parlé de quatre tués parmi les civils. Comme je dis, il y a toujours des rapports sommaires, parce qu'on ne peut pas directement entrer en profondeur, parce que ça, à chaque jour que ça passe, c'est comme la collecte des informations. À chaque fois que les jours passent, les heures passent, les minutes, il y a toujours des éléments nouveaux qui s'ajoutent. Non, je crois qu'il faudrait attendre, parce que comme on dit, parce que nous devons même remonter dans les temps, même pour l'assassinat du président John Kennedy. Il lui a fallu plusieurs années pour arriver à la vérité juridique. Je crois que de ce côté-là, je crois qu'il serait question que nous puissions pour rappeler ce qu'elle pourrait être produite dans les jours à venir, entre les deux, je vais mettre en symbiose. Mais, d'emblée, déjà, le débat est relancé, comme l'a dit le conseil.
Oui, Marcelin Mandotila, Lavado dit que pour réaliser ses rapports, elle a rencontré les autorités politico-administratives, judiciaires et militaires, les ONG nationales et internationales, des droits de l'homme, les Nations Unies, les confessions religieuses, ainsi que des victimes rescapées présentes à Manaka lors des faits. Ces affirmations suffisent-elles pour accorder une certaine crédibilité à ces rapports de Lavado?
Bien sûr, un rapport, ça part toujours des sources auprès desquelles on va chercher les informations qui permettent de faire un recoupement pour savoir ce qui s'est passé en un lieu. Mais là aussi, il y a aussi un problème. Lavado dit avoir rencontré les autorités politico-militaires, judiciaires, etc. Le ministre Mende dit non, toutes ces autorités ne reconnaissent pas avoir rencontré quelqu'un de Lavado. Il y a deux choses. La première chose, bon, ce que dit Lavado, ce que dit Mende, il y a à boire et à manger. Et dans le cas de Lavado, par exemple, Lavado, lorsqu'elle mène son enquête, ces éléments, je ne crois pas qu'ils vont partout en allant voir un colonel en disant « Colonel, moi je suis de Lavado, gouverneur, moi je suis de Lavado, tel je suis de Lavado », il risque déjà d'avoir une information qui ne serait pas tout à fait correcte. Parce que généralement, l'information officielle est ce qu'elle est. Bon, est-ce que c'est pour autant qu'il faut dire que Lavado a raison, que ces éléments ont réellement vu ses autorités et que le gouvernement a tort? Je ne voudrais pas me risquer sur ce terrain. Je voudrais plutôt que d'autres rapports viennent apporter des éléments qui nous permettront de faire un peu une sorte de recoupement.
Oui, Jacques Afeké, parmi les recommandations formulées par Lavado à l'endroit du gouvernement, il y a celle qui demande la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante. Et le gouvernement provincial déjà, de l'Équateur, par la bouche de son secrétaire général, Maître Dismas Mangwengu, a accepté de tenir compte de cette recommandation. Et vous pensez que, même si on mettait en place cette commission indépendante, que l'opinion saura tout ce qui s'est passé réellement à Mandaka le 4 et le 5 avril dernier?
En réalité, on ne saura pas. On ne saura pas.
Pourquoi?
On n'arrivera pas parce que vous savez que d'abord, pourquoi alors tarde-t-il le rapport de la Monique pour venir? Parce que nous considérons que la Monique est bien outillée pour que quiconque en Mbandaka et en République démocratique du Congo en termes de d'enquête, en termes d'équipe et de matériel pour effectuer de telles enquêtes. Mais les rapports de la Monique jusque-là est attendu et nous n'arriverons pas. C'est comme l'a dit les confrères. Donc nous sommes en train d'attendre plusieurs voies pour faire ce qu'on appelle le recoupement. Même dans la récolte des informations pour journalistique, nous ne procédons pas à une seule source. On peut confronter deux ou trois sources, surtout en temps de guerre. Vous savez, lorsque ça tire de partout, ce n'est pas un monsieur de Lavado qui est immunisé, qui va sortir pour aller compter les morts. Vous savez, il y a toutes ces choses. Donc, Lavado a donné sa source d'information, c'est les églises, c'est la société civile, c'est toutes ces personnes qu'ils ont citées. Mais du reste, l'État congolais ou le gouvernement local nie n'avoir pas reçu les agents. C'est vrai qu'ils ne vont pas s'afficher, mais ils vont en enquêteur. Un enquêteur s'habille de notre manteau. Mais nous n'arriverons pas réellement à trouver parce que les confrères de Kisangani viennent de dire que même pour Kennedy, il a fallu beaucoup de temps pour qu'on arrive à avoir ne serait-ce qu'une petite vérité. Donc moi je pense que une commission indépendante, elle est importante, mais la Monique aussi doit dire quelque chose parce que la Monique était présente. Il faut que la Monique arrive à nous faciliter aussi la tâche devant certaines situations, comme la situation de Mandaka, où moi j'estime que la présence de la Monique est la grande présence parce que lorsque le ministre Mende dit, lorsqu'on abat l'armateur, la Monique était là. Donc le premier témoin des premières balles, c'est la Monique qui doit remonter l'histoire et nous donner en fait la conclusion de ce que ces éléments ont pu voir réellement en Mandaka.
Oui, Fidel Inoussa Ngounou Kamete, partagez-vous le pessimisme de Jean Kasseke qui pense que même si on mettait en place cette commission indépendante, on ne saura jamais ce qui s'est passé à Mbandaka les 4 et les 5 avril dernier?
Bon, moi, je suis, comme je dis toujours, mais il faut toujours faire confiance aux gens, aux personnes. Le pessimisme, ça va, bon, on peut toujours avoir, parce que comme je dis, pour avoir un rapport fiable, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps. Comme j'avais fait allusion au décès, à la mort, à l'assassinat du président Kennedy en 1963, et comme également à l'assassinat du premier premier ministre Patrice Emery Lumumba en 61, ça fait beaucoup de temps pour que la vérité puisse faire jour. Donc, je ne partage pas totalement son pessimisme, mais ces questions, les rapports, c'est quoi en fait? C'est la réalité qu'on trouve sur le terrain. C'est la réalité visible. Ce qu'on a vu, c'est ce que les gens ont dit. Hein? Parce que là, il faut éviter les spéculations. C'est ça le rapport qu'on a dit, tourner vers la vérité. Mais souvent, certains cas également qui, comme on dit, la mise de ces pieds d'une commission indépendante et de la monnaie, ça c'est aussi une bonne chose. Parce que là, au moins, nous aurons au moins 4 leçons de cloche, la ZADO, le gouvernement et les deux autres parties. Ça serait une bonne chose, mais je crois que ce que le ministre a donné n'est pas tellement trop loin de la vérité. Parce qu'après tout, c'est le commandant, le chef d'état-major général qui était sur le terrain, c'est le gouvernement qui était sur le terrain les premiers. En tout cas, moi, je suis optimiste, je fais confiance aux gens qui sont sur le terrain, parce qu'on ne peut pas d'emblée comme ça avoir des présomptions négatives vis-à-vis de quelqu'un qui veut faire le travail, déjà vous le condamnez, déjà que ça ne va pas.
Merci, nous passons à notre deuxième thème ce soir. Le Premier ministre Adolphe Mouzito était mercredi devant les députés nationaux pour répondre à une série de questions avec débat. À l'issue de la première, une semaine avait été accordée au Premier ministre pour répondre à plus de 400 questions lui posées par les élus du peuple. Adolphe Mouzito devrait répondre, entre autres, à la situation financière difficile que traversent les provinces, mais aussi de leur déstabilisation par le pouvoir central, selon certains députés. Les points avec Julien Niamouni.
Plusieurs députés sont d'avis que les provinces du pays sont financièrement démunies, d'autant plus que l'apport du gouvernement n'est pas connu. Et pour tirer au clair les subventions du gouvernement, les députés du Sachi Kalenga demandent à Adolphe Mouzito des comptes.
Concernant les 40% des rétrocessions, quelles que soient les prévues dans la Constitution, il y a des bruits et aussi des mécontentements. Voulez-vous dire au peuple congolais le montant exact que le gouvernement a versé à chaque province et à sa priorité depuis 2007.
Pour le Premier ministre, trois provinces seulement disposent des atouts pour leur auto-prise en charge, Kinshasa, le Bas-Congo et les Katanga. Pour lui, les provinces sont appelées à générer leurs propres recettes.
Quant au financement du budget des provinces, il y a lieu de réaliser, outre la part des recettes à caractère national alignées par le pouvoir central aux provinces et l'appui des partenaires techniques et financiers, les provinces sont appelés à générer les recettes propres.
Selon le Premier ministre, sans recettes à caractère national, le développement du pays ne sera pas équilibré et devrait apporter des éclaircissements sur la déstabilisation des institutions provinciales comme l'Équateur et le Maniema.
Nous allons lire les unes de certains journaux. Le potentiel du mercredi 21 avril dernier, sur sa machette, dit ceci. Devant les députés Adolphe Mouzito appelés à convaincre, la République dit ceci. Hier à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple, les aignolés contraignent Mouzito à la défensive. L'avenir, le quotidien L'Avenir, du mercredi 21 avril, sur sa machette, avant même qu'il réponde aux députés, Mouzito menaçait de la question orale à la motion de censure. Et le quotidien La Tempête des Tropiques dit ceci, ce mercredi à l'Assemblée nationale, sauf dernier changement, Mouzito sur le brasier des députés. Marcelin Mandouakila, votre analyse par rapport à cet exercice démocratique?
Bon, d'abord, je note que la question orale avec débat adressé au Premier ministre a un arrière-goût d'interpellation. Les champs est tellement vaste, politique générale du gouvernement. Pourtant, l'actualité depuis la semaine passée, c'est une bandaka. Donc, les députés ont agi quelque peu dans la précipitation, parce que comme le Premier ministre a excusé les deux ministres qui étaient attendus, maintenant, on doit l'avoir lui-même qui vient de répondre aux questions. Ça risque aussi de faire passer sous silence ce qui s'est passé en Bandaka. Les députés devraient d'abord s'attaquer à ce qui s'est passé en Bandaka. Et le Premier ministre leur explique qu'il soit peut-être complété par les deux ministres qui étaient concernés au début, c'est-à-dire la défense et l'intérieur.
Mais Bandaka, c'est l'une des questions. Ce n'est pas la seule question qui préoccupe le peuple congolais.
C'est pourquoi je dis que ça a un arrière-goût d'interpellation. En fait, ça vient de l'opposition. L'opposition, c'est l'occasion de partir des mandats, de faire un survol sur l'ensemble des questions qui touchent à la gestion du pays, peut-être démontrer l'incapacité du gouvernement à gérer la situation, dès là peut-être aller vers une motion de défiance, etc. Bon, mais je crois que c'est bon d'avoir assez d'informations sur la marche du pays, mais on devrait d'abord se préoccuper de ce qui se passe en Bandaga. Le premier parle un mercredi, il était à l'Assemblée nationale un mercredi, il doit répondre dans une semaine, un autre mercredi, mais tout ce temps qui passe. Donc nous pouvons ne plus nous préoccuper tellement de ce qui s'est passé en Bandaga.
Jean Kasseke, comme le dit Marcel Mandakila, vous pensez que, bon, c'est vrai que la situation sécuritaire en Bandaga a constitué les déclics, mais vous pensez qu'on devait d'abord s'occuper de ce qui se passe en Bandaga, sans pour autant parler d'autres problèmes qui se posent au pays?
En fait, tous les problèmes qui se posent dans notre pays aujourd'hui sont importants, mais elles sont importantes, je voulais dire. Les derniers problèmes qui a soulevé les députés, tant de l'opposition que de la majorité, c'était la question des insurgés de Mbandaka. Alors, il était important, j'estime à mon avis, que les parlementaires commençaient par l'affaire Mbandaka, avant de remonter peut-être en divers, avant. Il fallait clôturer, parce que là, ils mettent les chefs du gouvernement devant un fait où ils doivent ramasser toutes les questions du gouvernement. Ça devient comme une évaluation. Mais finalement, on constate que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres parce que nous sommes à la fin de la législature. Il faut que pour les opposants, qu'ils démontrent noir sur blanc que le gouvernement a échoué. Vous voyez, en ramassant beaucoup de questions, imaginez-vous qu'on vous pose 400 questions. Il va répondre, mais est-ce qu'il va arriver à satisfaire à toutes ces questions?
Vous savez que ce n'est pas tous les jours qu'on a le Premier ministre, je crois que les députés en ont profité pour poser tout le problème qui les préoccupait.
Les communs de mortels qui n'a pas le temps de voir le Premier ministre, mais les députés ont le droit de toquer à n'importe quelle porte et avoir des solutions et des réponses aux problèmes. Ils n'ont pas besoin d'attendre qu'un problème d'actualité soit posé pour ramasser les autres problèmes pourtant importants pour nous, la population. Il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes sociaux, il y a beaucoup de problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui dans la nation, mais moi j'estime que pour le respect des Congolais tombés sur la Mbandaka, il était important de soulever la question de Mbandaka et de savoir comment, pourquoi les insurgés, les bandits, comme on dit, du village, ont commencé très loin et qu'ils arrivent à atteindre les grandes villes. Il y a eu des responsabilités. Il fallait que en fait, ça va paraître comme quelque chose de camouflage. Les députés risquent d'aider le gouvernement à oublier les questions essentielles, n'est-ce pas, de chercher qui était de près ou de loin mêlé à cette affaire, comment faire pour arrêter cette affaire, et le Premier ministre va se défendre. Il défend d'abord son poste et il défend sa politique. Oui, parce qu'il y a un problème. Monsieur, le compteur Marcelin a parlé ici que ça paraît comme une interpellation carrément du ministre. Or, quand on interpelle le Premier ministre, il peut soit être éjecté, comme il peut rester. Alors, il a le devoir de se protéger d'abord et de protéger la politique de son gouvernement. Donc, les questions qu'il va nous donner, ce ne sont pas des questions, des réponses purement pratiques. Ça peut paraître aussi des questions, des réponses politiques.
Fidèle Innocent Ngounou, il fallait d'abord se pencher à la question de Mbandaka avant d'aborder les autres problèmes. Êtes-vous de cet avis?
Bon, peut-être qu'ils ont inversé, hein, ils ont versé dans le ciblage, inversé le comment justement décider lié à l'interpellation, celle que je suis dit, 400 questions, c'est quand même énorme. Et la question qu'ils ont abordée, si cette question aussi a ce mérite, parce qu'il s'agit de la vie même des citoyens, parce que nous ne sommes pas des 40% de rétrocession qui n'arrivent toujours pas à être exécutés de manière convenable. Donc moi je trouve que le problème là aussi mérite aussi d'être traité. Mais dans la manière de l'acheminement, comme on m'a dit, là je rejoins mes conseils, il aurait fallu qu'on commence d'abord par les problèmes de Mbandaka, comme ça qu'on épluche une fois pour toutes ces dossiers, et puis après on passe à un autre dossier. Mais de toute façon, c'était pas mauvais, puisque les jours ne sont pas un, et on va toujours se retrouver ça prochainement. Nous sommes là, je crois que la population a le regard tourné vers l'hémicycle, parce que ce sont des élus qui ont été votés pour pouvoir représenter la population, parce que la population, tout le monde n'était pas allé là-bas, les 60 millions de Congolais n'étaient pas tous, c'est pour dans l'hémicycle, dans nos assemblées, nous leur faisons encore confiance,
Oui, Marcelin Mandokila, par rapport à la situation financière difficile que traversent les provinces, en fait, beaucoup de députés ont insisté sur cette question. Et pensez-vous que le Premier ministre Adolphe Mozito a des solutions magiques lorsque il est des notoriétés publiques, d'ailleurs, il l'a lui-même évoqué, qu'il n'y a que trois provinces qui sont viables, à savoir le Katanga, le Bas-Congo et la ville de Kinshasa?
Non, le Premier ministre n'a pas des solutions magiques. Et je voudrais d'abord à ce niveau relever une sorte d'accord sur une petite violation de la Constitution. La Constitution ne parle pas de rétrocession, nous avons dépassé ces cas. Les députés le savent, le Premier ministre le sait, le chef de l'État le sait également.
C'est la retenue à la source.
Retenue à la source, et c'est bien précisé, 40%. Lorsqu'on demande au Premier ministre est-ce qu'il a donné assez, est-ce qu'il a donné peu, par rapport à quoi? Si tout le monde se met d'accord qu'on ne parle pas de retenir à la source, il faut qu'il y ait une exception qui soit levée. Deuxièmement, s'il faut parler de rétrocession, on doit savoir, elle doit être de combien par province. Parce que là, nous quittons les caps de 40% retenir à la source par rapport aux recettes nationales réalisées dans chaque province.
Donc, la question que les députés devaient poser au Premier ministre, c'est celle de savoir pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à appliquer l'article de la Constitution relatif à la retenue à la source. C'est ça.
Je ne crois pas qu'il soit en mesure de répondre, parce que le chef de l'État même l'avait promis, il ne l'a pas réalisé. Bon, peut-être c'est qu'on ne dit pas clairement, le gouvernement a aussi besoin d'argent pour les 5 chantiers à qui ça fait ailleurs. Peut-être qu'on ne dit pas les choses clairement. Mais on doit savoir qu'est-ce qu'on doit rétrocéder à chaque, pour combien on doit rétrocéder à chaque province. Est-ce que c'est sur base des performances des provinces, comme Mozito le dit, il y a trois provinces qui sont les plus riches, mais quelque part, il faut d'abord qu'on donne assez de moyens aux provinces, avant que les provinces, entre elles, à travers une sorte de mutation de concurrence, puissent aller de l'avant. Mais le gouvernement ne peut pas bloquer ce qu'il doit rétrocéder aux provinces. Généralement causé avec quelqu'un, une autorité dans une des provinces, bon j'étais le nom, qui m'a dit, le point d'achèvement va bientôt nous achever. Il faisait allusion à cette rétrocession. Donc là aussi, je crois que le député a l'occasion, à défaut d'insister sur la retenue de 40% à la source, de faire en sorte que quand le gouvernement doit plutôt rétrocéder aux provinces, qu'on en connaisse la quantité. On rétrocède quoi et à quelle hauteur. Donc il faut que les choses soient fixées une bonne fois pour toutes. Mais oui, en plus, je voulais compléter, oui. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on rétrocède autant à cette province. Il faut que cela se fasse régulièrement. Parce que le gouvernement peut faire passer beaucoup de temps avant de rétrocéder. Là aussi, ça, je crois que ça tue les provinces.
Voilà, Jacques Asseke, il y a une certaine opinion qui pense que c'est toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui regorgent des potentialités. Mais comment expliquer qu'il n'y a que ces trois-là, donc le Katanga, la ville de Kinshasa et le Bas-Congo, qui aujourd'hui semblent être viables par rapport aux autres?
C'est tout simplement la politique. La politique du gouvernement ne permet pas aux autres provinces de ressortir, de faire la visibilité de leur potentiel.
Vous voulez dire que le gouvernement privilégie ces trois provinces?
Les gouvernements ne privilégient pas
des autres.
Non, ces trois provinces ont leur potentialité de fait visible. Ça veut dire, quand nous sommes à Matadi, nous avons les ports, ça c'est d'office. Quand nous sommes au Katanga, nous avons les mines et la frontière, c'est d'office. Quand nous sommes à Kinshasa, vous avez tous les taxes et tous les autres. Vous avez vu à Kinshasa, comme une pluie, trois taxes au même moment. Je ne sais pas si on va les appeler les taxes, vignettes, consorts et autres, au même moment. En fait, ce sont des situations, des faits où la population se retrouve faible et nous devons payer toutes ces choses. Je suis d'accord, moi, pour que la population paye des taxes et consorts pour construire notre pays. Mais en un coup, des campagnes, de tout ça, c'est trop. La population s'asphyxie, on ne sait pas manger, tout ça. Voilà. Donc, la politique du gouvernement devait dénombrer, devait faire l'inventaire des potentialités de chaque province. Prenons quelques États en Europe qui n'ont rien de cuivre, qui n'ont rien de forêt, mais qui vivent de foi de l'hôtellerie, qui vivent de foi du tourisme. Il y a des pays qui vivent du tourisme. Et pourquoi pas nous? On ne peut pas privilégier Peïla, les Maniema et toutes les autres provinces que vous considérez comme n'ayant rien. Ils ont quelque chose. C'est la politique du gouvernement qui ne veut pas amener ces provinces à émerger, à faire la visibilité de leurs produits. Vous voyez ? Donc moi, je crois que c'est très important qu'on arrive à faire l'inventaire de nos potentialités et arriver à faire les campagnes de sensibilisation pour montrer aux Congolais que ça ne sert à rien d'aller se reposer seulement en Europe. Vous pouvez bien vous reposer à Goma, vous pouvez bien vous reposer quelque part où il fait beau vivre. Il y a des gens qui sont ici, il a gravi les échelons, il est arrivé à un niveau élevé sur le plan politique, mais qui n'a jamais vu la source du fleuve Congo, par exemple. Il suffit de révaloriser.
Fidèle Inosa Ngounou Kamete, comment entrevoyez-vous l'issue de cette démarche initiée par les députés de l'opposition?
Bon, je crois que ça va aboutir, je ne sais pas, ce qui se cache derrière cette démarche des députés de l'opposition. Mais moi, ce qui retient mon attention, c'est le souci de la solidarité nationale. Comme il a épinglé les trois provinces qui sont prêtes à décoller, ça, je crois que nous devons aussi être honnêtes, parce que si nous pouvons prendre le cas de la province orientale, qui a connu des guerres durant toute la période que le pays était fondé à deux, donc toutes les usines ont été pratiquement touchées, donc les indicateurs sont au rouge, les potentialités, la province regorge des potentialités énormes. Son sol et son sous-sol regorgent de potentialités. Mais il faut ce qu'on appelle la solidarité nationale pour pouvoir permettre à la province de se relancer. Hein, à l'heure actuelle, c'est ça qui fait en sorte que la province orientale connaît encore des problèmes. Parce que dans ce discussion, il y a un point sur la Gécamine de la province orientale qui est utilisée à son inauguration en 1974. Plus de 1796 employés actuellement. C'est ce que je dis, mais plus que 50 ouvriers et 50 agents. Mais si vous voyez du côté de l'Ivra, c'est fermé. Sorgerie, c'est fermé. Il y en a de même également pour les usines qui se trouvent dans la vieille. Moi, je crois que dans cette optique de fait, il aurait fallu quand même un temps de réflexion pour pouvoir recourir à la solidarité nationale pour qu'on puisse donner à la province orientale des moyens de son décollage par la retenir à la source des 40%, comme on venait de le dire. Il est aussi vrai pour d'autres provinces, telles que le Maniema, les bandes du Kosovo. Moi, j'estime que la démarche n'est pas tellement mauvaise, la démarche n'est pas tellement toujours d'évincer, d'écarter, manger des méchants, mais d'avoir une vision commune, d'arriver à l'union de cœur et des esprits pour le développement de ce grand Congo démocratique, que le Congo reprenne sa place d'antan et devienne fort et puissant devant le Conseil des Nations.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir, perturbation du trafic aérien dans certains pays européens suite à l'éruption du volcan en Islande. Près de 200 millions de dollars américains par jour, c'est le manque à gagner enregistré par les compagnies d'aviation qui n'ont pas pu effectuer de vol depuis le 15 avril dernier vers l'Europe. La fumée dégagée par le volcan islandais qui paralyse les trafics aériens européens a ainsi bloqué quelques 600 passagers de la compagnie aérienne Brussels Airlines à Kinshasa, sans compter les passagers d'autres compagnies telles que Air France et qui n'ont pas non plus effectué les déplacements pour l'Europe pour les mêmes raisons. Sven Marinus, représentant de Brussels Airlines en République démocratique du Congo, est au micro de Barry Franklin Luchaka.
L'IATA a estimé que le manque à gagner pour l'industrie est environ 200 millions de dollars par jour. Mais là, je parle pour toutes les compagnies confondues. Donc, on a annulé tous les vols réguliers planifiés jusque lundi matin. Ceci veut dire que nous avons encore un avion long courrier qui est ici à Kinshasa et on va essayer de l'envoyer le plus vite possible en Europe. Mais ce sera probablement considéré comme un vol de rapatriement, donc qui va ne pas opérer selon un schedule normal. Ici à Kinshasa, nous avons les passagers qui sont bloqués depuis jeudi parce que le vol de jeudi n'a pas pu avoir lieu. S'ajoute à ça les passagers qui devaient partir vendredi. Ça fait entre 500 et 600 pour l'instant.
Marcelin Mwandwakila, je rappelle que vous êtes directeur de rédaction du quotidien Forum des As, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Votre commentaire par rapport à ces phénomènes qui se produisent en Europe, mais qui a des répercussions sur la République démocratique du Congo?
Oui, ces phénomènes nous a tous surpris pratiquement.
Lorsqu'on pose des questions à certains experts, on dit que la dernière fois qu'il s'est produit, c'était il y a environ un siècle, c'est-à-dire au début du siècle passé. C'est vrai, il y a eu beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, tout d'abord pour les sociétés d'aviation.
On parle de 200 millions de dollars américains par jour.
Il y en a même qui parlent de 250, donc plus ou moins. Il y a eu beaucoup de pertes, également il y a eu beaucoup de perturbations par rapport à beaucoup de voyages prévus. Nous attendions la délégation du Conseil de sécurité
qui a été
bloquée à cause de ces nuages. Oui. Je crois que c'est vraiment regrettable sur le plan international, même si quelque part il y a des pays qui sont... C'est un peu comme quelqu'un qui fabrique des cercueils, hein. C'est pas parce qu'il est sorcier. Mais quand il y a un mort, au moins il fait le bénéfice. Il y a des États qui ont quand même pu tirer profit parce que telle société, ses avions étaient bloqués, cloués au sol sur un tarmac, et il y a des taxes à payer régulièrement. Mais d'une manière générale, c'est une situation regrettable. S'il est possible de prendre des précautions, je crois qu'il faut qu'on le fasse.
Oui, Jean Cassetier, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et éditeur de la revue La Voix des Justes. Comment peut-on évaluer l'impact de cette perturbation du trafic aérien? Marcel Mandokila a évoqué la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devait arriver, mais elle n'est plus arrivée. Vous savez que parmi les questions qui devaient être abordées avec les autorités congolaises, il y a celle sur la reconfiguration du mandat de la MONUC. Et comment pouvez-vous évaluer l'impact de cette perturbation?
Merci beaucoup. Je voudrais signaler que notre revue La Voix des Justes est une publication chrétienne. Ça veut dire que vous allez me permettre de donner un avis chrétien, un avis prophétique dans mon analyse.
Exactement.
Ça veut dire que c'est au moins plus de 80 000 vols ratés dans le monde, surtout en Europe. C'est au moins 35 millions d'euros pour KLM et Air France, sans compter les petites entreprises, n'est-ce pas, qui gravitent autour des aéroports en Europe. Et pour renchérir en Afrique, comme l'a dit Marcelin, c'est que chez nous, en Afrique, il y a des compagnies, il y a des petits services qui gravitent autour des aéroports, autour des vols. Quand Air France arrive ou tel arrive, ils gagnent quelque chose. Donc c'était une paralysie totale, même à l'aéroport d'Ngili, on l'a senti. Sur le plan économique, sans rien dire, ça a été des pertes énormes pour les compagnies qui expédient des colis comme FedEx et DHL et bien d'autres. Mais sur le plan politique, nous, c'est-à-dire que cette ratée peut être bénéfique comme ça peut nous être désavantagé. Vous savez, quand quelque chose était planifié pour se faire lundi et que ça se fait vendredi, entre lundi et vendredi, il y a beaucoup d'impératifs qui peuvent changer en bien ou en mal. Je ne sais pas à quand encore ils vont programmer la descente à Kinshasa. Est-ce que le gouvernement congolais a pris des précautions en dépit du fait que c'est une action surnaturelle qui dépasse les hommes pour prendre des précautions? Est-ce que le gouvernement a pris des précautions pour continuer à alimenter son lobbying afin que cette délégation venue, nous puissions débattre froidement et au bénéfice de la communauté congolaise sur la question soit du prolongement de la durée de la MONUC ou de comment le départ de la MONUC, Molo Molo, jusqu'à ce qu'ils arrivent à partir.
Merci fidèle Innocent Ngounou Kamete. Je rappelle que vous êtes directeur provincial de l'agence congolaise de presse ACP en sigle, province orientale. Et comment pouvez-vous analyser cette mobilisation de la communauté internationale, des scientifiques, des médias, pendant qu'on sait qu'à Goma, ce genre de phénomène se produit, mais on n'a jamais assisté à une telle mobilisation?
Non, bon, la différence entre la situation de Islande et la situation de Goma, c'est tout simplement par rapport aux dégâts. D'ailleurs, vous voyez maintenant les dégâts et donc au niveau international. Vous voyez, si j'ai suivi l'introduction de l'homme qui l'a passé à parler de 200 millions de dollars par jour de manque à gagner, vous voyez ce que ça fait. Et puis également donc la délégation de la MONUC qui devait venir.
La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le mandat de la MONUC bon, est bloqué. Et tout ça, c'est un manque à gagner parce que c'est énorme. C'est ce qui a fait que même lorsqu'il y a eu érection au niveau de Nirangongo, là, il y a une différence parce qu'il y avait des fissures. Les lames sont sorties par des fissures. Tandis qu'ici, il s'agit des centres qui obstruent pratiquement l'atmosphère et ça ne permet même pas aux avions de pouvoir donc atterrir. La visibilité est nulle. Moi, je crois que la tension, il n'y a pas d'injustice possible. C'est par rapport à l'impact négatif que ce volcan crée à travers le monde. Voilà.
Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, assisté de Aimé Kamoa et Kelly Nkoupé, sous la supervision de Martin Sebizangwe, devant ce micro Guy Maté. Merci et excellent week-end sur Radio Okapi. ¶¶